Chapitre 12. Le jeudi et l'école. Le lendemain, c'était jeudi, et ce matin-là, avant qu'on se mette en chemin pour l'école, je suis allé derrière la roulotte et j'ai cueilli deux pommes, une pour mon père, une pour moi. C'est une chose merveilleuse de pouvoir sortir de chez soi et d'aller prendre des pommes quand on veut. On ne peut faire cela qu'à l'automne, bien sûr, mais quand même. Combien y a-t-il de familles qui ont cette chance? Pas une sur mille, j'imagine. Nos pommes étaient des rainettes, de la variété Cox Orange, et j'aimais leur nom presque autant que le fruit lui-même. À 8 heures, dans le pâle soleil d'automne, nous sommes partis à pied en direction de l'école, en croquant nos pommes. Schklang. C'était le bruit que faisait le pied ferré de mon père chaque fois qu'il le posait sur la surface dure de la route. Schklang. 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 Tu as pris de l'argent pour acheter des raisins secs? Ai-je demandé. Il a plongé la main dans la poche de son pantalon et a fait tinter les pièces de monnaie. Ils seront déjà ouverts à cette heure-ci chez Cooper? Oui, a assuré mon père. Ils ouvrent à 8h30. J'aimais vraiment beaucoup aller à l'école à pied avec lui. Nous parlions pratiquement tout le temps. C'était presque toujours lui qui parlait et moi qui écoutais. Et tout ce qu'il disait me fascinait. C'était un véritable homme de la campagne. Les champs, les cours d'eau, les bois et toutes les créatures qui y vivaient faisaient partie de sa vie. Bien sûr, il était mécanicien de profession et un très bon mécanicien. Mais je pense qu'il aurait pu devenir un grand naturaliste, si seulement il avait fait de bonnes études. Longtemps auparavant, il m'avait appris les noms de tous les arbres, de toutes les fleurs sauvages et des différentes sortes d'herbes qu'on trouve dans les prés. Je pouvais aussi donner les noms des oiseaux, non seulement en les voyant, mais en entendant leurs cris et leurs chants. Au printemps, nous cherchions les nids, au long du chemin. Et lorsque nous en trouvions un, mon père me hissait sur ses épaules pour que je puisse regarder à l'intérieur et voir les œufs. Mais je n'avais absolument pas le droit d'y toucher. Il me disait qu'un nid avec des œufs à l'intérieur était une des plus belles choses au monde. J'étais d'accord avec lui. Le nid d'une grive musicienne, par exemple, aux parois recouvertes de boue séchée aussi lisse que du bois poli, avec à l'intérieur 5 œufs du bleu le plus pur tacheté de points noirs. Et les alouettes, dont un jour nous avions trouvé un nid par terre, en plein milieu d'un pré, caché dans une grosse touffe d'herbe. C'était à peine un nid, juste un petit creux dans l'herbe, et il y avait là 6 œufs, marrons et blancs. « Pourquoi l'alouette fait son nid par terre, alors que les vaches peuvent le piétiner ?» ai-je demandé. « Personne ne sait pourquoi, » a répondu mon père, « mais c'est toujours comme ça. Les rossignols aussi nichent sur le sol, ainsi que les faisans, les perdrix et les grouses. » Un jour que nous nous promenions ensemble, une belette avait surgi d'une haie devant nous et, dans les minutes qui avaient suivi, j'avais appris beaucoup de choses sur cette merveilleuse petite créature. Ce que j'avais surtout aimé, c'était quand mon père avait dit « La belette est le plus courageux de tous les animaux. La mère est capable de se battre jusqu'à la mort pour défendre ses petits. Elle ne prend jamais la fuite, même devant un renard qui est 100 fois plus grand qu'elle. Elle reste à côté de son terrier et se bat contre le renard jusqu'à ce qu'elle en meure. » Un autre jour, quand j'avais dit « Écoute cette sauterelle, papa !» il m'avait répondu « Ce n'est pas une sauterelle, c'est un grillon. Est-ce que tu sais que les grillons ont les oreilles sur les pattes ?»« C'est pas vrai. » C'est tout ce qu'il y a de plus vrai. Celles des sauterelles sont de chaque côté de leur ventre. Et toutes les deux ont bien de la chance de pouvoir entendre, parce que la plupart des immenses quantités d'insectes qu'on trouve sur Terre sont sourds et muets et vivent dans un monde silencieux. Ce jeudi-là, sur le chemin qui menait à l'école, il y avait une vieille grenouille qui coassait dans le ruisseau, derrière la haie devant laquelle nous passions. « Tu l'entends, Danny ?»« Oui. » « C'est une grenouille taureau, un mâle qui appelle sa femme. » Il fait ça en gonflant son sac vocal et en relâchant l'air comme un rot. « Qu'est-ce que c'est, un sac vocal ?» j'ai demandé. « C'est une peau qui pend sous son cou. Il peut la gonfler comme un petit ballon. Et qu'est-ce qui se passe quand sa femme l'entend ?»« Elle vient le rejoindre en sautant. » Elle est très heureuse d'avoir été invitée, mais je vais te raconter quelque chose de très drôle sur cette bonne vieille grenouille taureau. Souvent, le mâle est si content de sa propre voix que sa femme doit lui donner des petits coups plusieurs fois de suite pour qu'il s'arrête de rôter et se retourne enfin vers elle en la serrant contre lui. J'ai éclaté de rire. « Oh, ne ris pas trop vite !» a dit mon père en se tournant vers moi, les yeux pétillants. « Nous autres, les humains, nous ne sommes pas si différents de la grenouille taureau. » Nous nous sommes séparés devant le portail de l'école et mon père est parti acheter les raisins secs. D'autres élèves s'engouffraient dans l'allée qui menait à l'entrée principale. Je me suis joint à eux, mais j'ai gardé le silence. J'étais le gardien d'un très grand secret, et un mot prononcé par mes gardes pouvait dévoiler la plus grande expédition de braconnage que le monde ait jamais connue. C'était une petite école de village, un bâtiment bas, en briques rouges, sans aucun étage. Au-dessus de la porte d'entrée, il y avait un gros bloc de pierre grise encastré dans la maçonnerie, et sur lequel il était gravé « Cette école a été érigée en 1902 pour célébrer le couronnement de Son Altesse Royale, le roi Édouard VII. » J'avais dû lire ça au moins 1000 fois. Chaque fois que je passais la porte, l'inscription attirait mon œil. J'imagine que c'était pour ça qu'elle était là. Mais il est très ennuyeux de relire sans cesse les mêmes mots, et j'avais souvent pensé que ce serait beaucoup plus agréable s'ils écrivaient quelque chose de différent chaque jour, quelque chose de vraiment intéressant. Mon père aurait fait ça à merveille. Il aurait pu écrire avec un morceau de craie sur la pierre une nouvelle phrase que nous aurions découverte chaque matin. Il aurait pu dire des choses comme « Saviez-vous que le petit papillon qu'on appelle Souci porte souvent sa femme sur son dos ?» Un autre jour, il aurait pu écrire « Le guppy a de drôles de manières. Quand il tombe amoureux d'une femelle guppy, il la mord au derrière. » Et aussi « Saviez-vous que le sphinx tête de mort peut émettre un son semblable à un couinement ? Ou « Les oiseaux n'ont presque pas d'odorat, mais ils ont une très bonne vue et aiment beaucoup le rouge. Leurs fleurs préférées sont jaunes et rouges, mais jamais bleues. » Et peut-être qu'un autre jour, il aurait crié avec sa craie « Certaines abeilles possèdent une langue qui, une fois déroulée, fait presque le double de la longueur de leur corps. Cela leur permet de recueillir le nectar de fleurs étroites et profondes. » Il aurait pu dire aussi « Je parie que vous ne saviez pas que dans les grandes maisons de la campagne anglaise, le majordome doit toujours repasser le journal du matin avant de le poser sur le plateau du petit-déjeuner de son maître. » Notre école comptait une 60aine de filles et de garçons, dont l'âge allait de 5 à 11 ans. Il y avait 4 classes et 4 maîtres et maîtresses. Miss Birdseye s'occupait du cours préparatoire, les élèves de 5 et 6 ans. C'était quelqu'un de très gentil qui avait toujours dans le tiroir de son bureau des petits bonbons à l'anis et tous ceux qui avaient bien travaillé avaient droit à une boule anisée qu'ils pouvaient sucer tout de suite pendant la classe. Le truc avec les boules à l'anis, c'est de ne jamais les croquer. Si on les fait rouler dans sa bouche, elles fondent lentement, toutes seules, et alors, juste en leur centre, on trouve une minuscule graine marron. C'est la graine d'anis elle-même, et quand vous la croquez entre deux dents, elle a un goût fabuleux. Mon père m'avait dit que les chiens en sont fous. Quand il n'y a pas de renards aux alentours, le chasseur traîne un sac de graines d'anis sur des kilomètres dans la campagne et les chiens suivent la trace parce qu'ils adorent ces graines. On appelle ça la chasse à la traîne. Les élèves de 7 et 8 ans avaient pour maître Mister Corrado. Et lui aussi était très bien. C'était un vieux maître qui devait avoir 60 ans ou plus. Mais cela ne semblait pas l'empêcher d'être amoureux de Miss Birdseye. Nous savions qu'il était amoureux d'elle parce qu'il lui donnait toujours les meilleurs morceaux de viande au déjeuner, quand c'était son tour de servir. Et quand elle lui souriait, il lui rendait son sourire de l'air le plus niais qu'on puisse imaginer, en découvrant ses dents de devant, en haut et en bas, et même la plupart de ses autres dents. Un maître qui s'appelait le capitaine Lancaster s'occupait des élèves de 9 et 10 ans, dont je faisais partie. Le capitaine Lancaster, connu aussi sous le nom de Lankers, était un homme horrible. Il avait les cheveux d'un roux carotte flamboyant, une petite moustache bien taillée de même couleur et un caractère enflammé. Des poils roux sortaient en touffes de ses narines et de ses oreilles. Il avait été capitaine dans l'armée pendant la guerre contre Hitler, et c'est pourquoi il continuait de se faire appeler « Capitaine Lancaster » au lieu d'un simple « Docteur Lancaster ». Mon père disait que c'était idiot de faire ça. Il y avait des millions de gens toujours vivants, disait-il, qui avaient combattu dans cette guerre, mais la plupart d'entre eux voulaient oublier toutes ces choses abominables et surtout ces titres militaires dérisoires. Le capitaine Lancaster était un homme violent, et il nous terrifiait. Il s'asseyait à son bureau en caressant sa moustache carotte et nous observait, d'un regard humide et pâle, cherchant à nous prendre en faute. Assis sur sa chaise, il reniflait en émettant d'étranges grognements, tel un chien qui flaire le sol autour d'un terrier de lapin. Mr. Snoddy, notre directeur, s'occupait de la classe des grands, celle des 11 ans, et tout le monde l'aimait bien. C'était un petit homme rond, avec un énorme nez écarlate. J'étais triste pour lui qu'il ait un nez comme ça, si gros et si rougeoyant qu'il semblait sur le point d'exploser à tout moment en faisant sauter Mr. Snoddy avec lui. Ce qu'il y avait d'amusant avec Mr. Snoddy, c'était qu'il apportait toujours en classe un verre d'eau qu'il buvait à petites gorgées tout au long du cours. Du moins, tout le monde pensait que c'était un verre d'eau. Tout le monde, sauf moi et mon meilleur ami, Sidney Morgan. Nous savions qu'il en était autrement, et voici comment nous l'avions découvert. Mon père entretenait la voiture de Mr. Snoddy, à qui j'apportais toujours la facture des réparations à l'école pour économiser un timbre. Un jour, pendant la récréation, je suis allé dans son bureau pour lui donner une facture, et Sidney Morgan est venu avec moi. Il n'avait aucune raison particulière d'être là, nous étions simplement ensemble. Et, au moment où nous sommes entrés, nous avons vu Mr. Snoddy debout devant son bureau en train de remplir son fameux verre d'eau avec une bouteille de Gin Gordon. En nous voyant, il a fait un bond de 2 mètres de haut. « Vous auriez pu frapper !» nous a-t-il dit, en cachant la bouteille derrière une pile de livres. « Je suis désolé, monsieur, » ai-je répondu. « J'ai apporté la facture de mon père. »« Ah ! Bien ! Très bien ! Et toi, Sidney ? Qu'est-ce que tu veux ?»«
Rien, monsieur !»
a dit Sidney Morgan.
« Rien du tout !»
« Alors, sortez tous les deux !» a ordonné Mr. Snoddy, en gardant une main sur la bouteille derrière les livres.
« Allez, filez !»
Dehors, dans le couloir, nous nous sommes fait la promesse de ne jamais rien dire aux autres élèves de ce que nous avions vu. Mr. Snoddy avait toujours été gentil avec nous, et nous voulions lui montrer notre reconnaissance en gardant pour nous son grand et sombre secret. La seule personne à qui j'en ai parlé, c'était mon père. Et quand il a entendu l'histoire, il a dit « Je ne le blâmerai jamais pour ça. Si j'avais la malchance d'être marié à Mrs. Snoddy, je boirais quelque chose d'un peu plus fort que du gin. »«
Qu'est-ce que tu boirais, papa ?»«
Du poison, » a-t-il répondu. « C'est une femme effroyable. »«
Pourquoi ?»« C'est une espèce de sorcière. La preuve, c'est qu'elle a 7 orteils à chaque pied. Comment tu le sais ?»«
C'est le docteur Spencer qui me l'a dit, » a répondu mon père.
Puis, pour changer de sujet, il a ajouté « Pourquoi tu n'invites jamais Sidney Morgan à jouer avec toi ici ?»
Depuis que j'avais commencé à aller à l'école, mon père avait essayé de m'encourager à amener mes amis à la station-service pour prendre le thé ou pour dîner. Et chaque année, environ une semaine avant mon anniversaire, il me disait
« On va faire une fête cette fois, Danny. On va envoyer des invitations et j'irai au village acheter des éclairs au chocolat, des beignets et un gros gâteau d'anniversaire avec des bougies. »
Mais j'avais toujours repoussé ces suggestions et je n'avais jamais invité aucun enfant à venir chez moi après l'école ou le week-end. Ce n'était pas parce que je n'avais pas d'amis. J'en avais plein. Certains étaient même des amis très proches, surtout Sidney Morgan. Peut-être que si j'avais habité dans la même rue que certains d'entre eux, au lieu d'être ici, loin dans la campagne, les choses auraient été différentes. Mais finalement, peut-être pas. En réalité, la vraie raison pour laquelle je ne voulais pas inviter quelqu'un à venir jouer avec moi, c'était que j'aimais beaucoup mieux être seul avec mon père. Ce jeudi-là, quand mon père m'a laissé à la porte de l'école, puis est parti acheter les raisins secs, il s'est passé quelque chose d'horrible. C'était la première heure de la journée, avec le capitaine Lancaster. Et il nous avait préparé tout un tas de multiplications à faire dans nos livres d'exercice. J'étais assis à côté de Sidney Morgan, au dernier rang, et nous nous appliquions tous les deux. Le capitaine Lancaster était à son bureau, jetant sur la classe un regard soupçonneux de ses yeux bleus et humides, et même au dernier rang, je l'entendais renifler et souffler par le nez comme un chien autour d'un terrier de lapin. Sidney Morgan a alors couvert sa bouche d'une main et m'a murmuré
« Ça fait combien, 8 x 9 ?»« 72 », j'ai répondu.
Le doigt du capitaine Lancaster a jailli alors comme une balle de fusil et s'est pointé droit sur moi.
« Toi !»
a-t-il crié.
« Lève-toi !»
Moi, monsieur ?
Oui, toi, espèce de pauvre idiot !
Je me suis levé.
Tu bavardais ? A-t-il aboyé. Qu'est-ce que tu racontais ?
Il criait comme si j'avais été un soldat en manœuvre.
Allez, répète-moi ce que tu disais !
Je suis resté immobile et je n'ai pas prononcé un mot.
Tu refuses de me répondre ?
A-t-il crié.
S'il vous plaît, monsieur, a dit Sidney. C'est ma faute. Je lui ai posé une question.
Ah, vraiment ? Eh bien, lève-toi aussi.
Sidney s'est levé à côté de moi.
Et quelle question tu lui as posée ?
Lui a demandé le capitaine Lancaster en parlant moins fort à présent, mais sur un ton beaucoup plus menaçant.
Je lui ai demandé combien font 8 fois 9,
a dit Sidney.
Et j'imagine que toi, tu lui as répondu,
a dit le capitaine Lancaster en pointant à nouveau le doigt sur moi.
Il ne nous appelait jamais par notre nom. C'était toujours
« toi » ou « mon garçon » ou « ma petite fille »
ou quelque chose dans ce genre-là.
Tu lui as répondu ou pas ?
Allons, parle, mon garçon !
Oui, monsieur, j'ai dit.
Donc, tu as triché. Vous avez triché tous les deux.
Nous sommes restés silencieux.
Tricher est une habitude ignoble, digne d'un gamin des rues ou d'un moins que rien.
De là où j'étais, je voyais tous les élèves de la classe assis, immobiles, les yeux rivés sur le capitaine Lancaster. Personne n'osait faire le moindre geste.
Peut-être que chez vous, on vous permet de tricher, de mentir, de frauder,
a-t-il poursuivi.
Mais moi, je ne l'accepterai jamais ici.
À cet instant, une sorte de fureur aveugle m'a saisi et je lui ai répliqué en criant.
Je ne suis pas un tricheur.
Il y a eu un silence effaré dans la classe. Le capitaine Lancaster a relevé le menton et m'a fixé de ses yeux humides.
Tu n'es pas seulement un tricheur. Tu es aussi insolent,
a-t-il dit froidement.
Très insolent. Viens ici. Venez ici, tous les deux.
Quand je me suis écarté de ma table et que j'ai marché vers l'estrade, je savais exactement ce qui allait se passer. Je l'avais vu de nombreuses fois, quand c'était tombé sur d'autres, garçons ou filles, mais jusqu'à présent, ça ne m'était jamais arrivé. Chaque fois que j'en avais été témoin, je m'étais senti malade. Le capitaine Lancaster s'est levé et s'est dirigé vers la haute bibliothèque, contre le mur de gauche. Il a tendu le bras vers le dernier rayon et a attrapé la canne, tant redoutée. Elle était blanche, cette canne. Blanche comme un os. Très longue, très fine. L'une de ses extrémités recourbée en forme de poignet, comme une canne pour marcher.
« Toi d'abord !»
a-t-il dit en pointant la canne vers moi.
« Tends-moi ta main gauche !»
Il m'était presque impossible de croire que cet homme s'apprêtait à me blesser physiquement et de sang-froid. Quand j'ai levé ma main gauche, la paume vers le haut, et que je l'ai tenue en l'air sans bouger, j'ai regardé cette paume avec sa peau rose, ces lignes que lisent les diseuses de bonne aventure, et je n'arrivais pas à imaginer que quelque chose de grave allait lui arriver. La longue canne blanche s'est dressée très haut, et s'est abattu sur ma main avec un claquement sec, comme un coup de fusil. J'ai d'abord entendu le claquement, et deux secondes plus tard, j'ai senti la douleur. Jamais, de toute ma vie, je n'avais eu aussi mal. C'était comme si quelqu'un avait appuyé un tisonnier chauffé au rouge contre la paume de ma main, et l'avait tenu là un long moment. Je me souviens d'avoir attrapé ma main blessée avec ma main valide, et de l'avoir serrée entre mes jambes. J'ai serré, serré aussi fort que je le pouvais, comme pour l'empêcher de tomber en morceaux. J'ai réussi à faire en sorte qu'on ne m'entende pas pleurer. Mais je n'ai pas pu retenir les larmes qui ruisselaient sur mes joues. Quelque part, à côté de moi, j'ai entendu à nouveau le bruit effroyable.
Switch, crac !
Et j'ai su que le malheureux Sidney avait eu sa part. Quelle horrible sensation de brûlure sur ma main. Pourquoi ne disparaissait-elle pas ? J'ai jeté un coup d'œil à Sidney. Il faisait la même chose que moi, serrant sa main entre ses jambes, une expression terrible sur le visage.
« Allez vous rasseoir, tous les deux !»
a ordonné le capitaine Lancaster. D'une démarche trébuchante, nous sommes retournés à notre table et nous nous sommes assis.
« Et maintenant, au travail !»
a dit la voix terrifiante.
« Plus de tricherie et plus d'insolence !»
Les élèves ont penché la tête sur leurs livres, comme des fidèles disant leurs prières à l'église. J'ai regardé ma main.
Il y avait une longue et horrible marque de plus d'un centimètre de largeur qui traversait la paume à la base des doigts. Elle était enflée au milieu et la boursouflure était complètement blanche avec du rouge des deux côtés. J'ai remué les doigts, ils bougeaient normalement, mais j'avais mal à chaque mouvement. J'ai jeté un coup d'œil à Sydney, il m'a lancé un bref regard d'excuse sous ses paupières, puis il est retourné à ses opérations. Quand je suis rentré de l'école cet après-midi-là, mon père était dans l'atelier.
« J'ai acheté les raisins secs, » m'a-t-il dit. « Nous allons les mettre à tremper. Va me chercher un bol d'eau, Danny. »
Je suis allé dans la roulotte. J'ai pris un bol et je l'ai rempli d'eau à moitié. Puis je l'ai apporté à l'atelier et posé sur l'établi.
« Ouvre les sachets et verse mes raisins secs dans le bol, » a dit mon père.
C'était une chose que j'aimais beaucoup chez mon père. Il ne cherchait pas à tout prendre en main lui-même. Que ce soit un travail difficile, comme régler un carburateur sur un gros moteur ou simplement verser des raisins secs dans un bol, il me laissait toujours le faire moi-même pendant qu'il me regardait, prêt à aider. Et là, il m'a regardé ouvrir le premier sachet de raisins secs. «
Hé !»
s'est-il écrié en attrapant soudain mon poignet gauche.
« Qu'est-ce que tu t'es fait à la main ?»«
Ce n'est rien !» j'ai dit en serrant le poing. Il m'a obligé à ouvrir les doigts. La longue marque écarlate barrait ma paume comme une brûlure.
« Qui t'a fait ça ? »
s'est-il exclamé.
« Le capitaine Lancaster ?»« Oui, papa, mais ce n'est rien. »«
Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il serrait mon poignet si fort qu'il me faisait presque mal.
« Dis-moi exactement ce qui s'est passé. »
Je lui ai tout raconté. Il est resté là à me tenir le poignet. Son visage devenait de plus en plus blanc et je voyais la fureur bouillonner dangereusement en lui.
« Je vais le tuer, » a-t-il murmuré à voix basse, à la fin de mon récit. « Je jure que je vais le tuer. »
Ses yeux flamboyaient. Et son visage n'avait plus la moindre couleur. Je ne l'avais encore jamais vu comme ça.
« Oublie ça, papa. »«
Je ne l'oublierai pas, » a-t-il dit. « Tu n'as rien fait de mal, et il n'avait aucun droit de te faire ça. Il t'a traité de tricheur, hein ?»
J'ai acquiescé d'un signe de tête. Il avait pris sa veste accrochée à la patère, sur le mur, et commençait à l'enfiler.
« Où vas-tu ? » je lui ai demandé.
« Je vais aller tout droit chez le capitaine Lancaster et lui faire voir 36 chandelles. »
« Non !» j'ai crié en l'attrapant par le bras. « Ne fais pas ça, papa. S'il te plaît. Ça n'arrangera rien. S'il te plaît, arrête. Il faut que j'y aille. Non !»
j'ai dit en continuant de le tirer par le bras.
« Ça gâcherait tout. Ce serait encore pire. S'il te plaît, oublie ça. »
Il a alors hésité. Je n'ai pas lâché son bras. Il restait silencieux et je voyais la vague de fureur refluer lentement de son visage.
« C'est révoltant, » a-t-il dit.
Je suis sûr qu'ils te l'ont fait aussi quand tu étais à l'école.
Bien sûr.
Et je parie que ton père ne s'est pas précipité pour faire voir 36 chandelles au professeur qui t'avait puni.
Il m'a regardé en silence.
Il n'a pas fait ça. Hein, papa?
Non, Danny. Il ne l'a pas fait, a-t-il répondu à voix basse.
J'ai lâché son bras et je l'ai aidé à retirer sa veste, que j'avais accrochée à nouveau à la patère.
« Je vais mettre les raisins secs dans le bol, » j'ai dit. « Et n'oublie pas que demain, j'ai un mauvais rhume et je n'irai pas à l'école. »«
Oui, c'est vrai. »«
Nous avons 200 raisins secs à préparer. »«
Ah oui, c'est vrai ça. »«
J'espère qu'ils seront prêts à temps. »«
Ça te fait encore mal ? » m'a-t-il demandé. « Ta main ?»«
Non, pas du tout. »
Je crois qu'il s'est satisfait de cette réponse. Et bien que je l'ai vu jeter de temps en temps des coups d'œil à la paume de ma main pendant le reste de l'après-midi, il n'en a plus parlé. Ce soir-là, il ne m'a pas raconté d'histoire. Il est resté assis au bord de ma couchette et nous avons parlé de ce qui allait se passer le lendemain dans les bois de Hazel. J'étais de plus en plus échauffé et je sentais monter en moi un tel sentiment d'excitation que je n'arrivais plus à dormir. Je crois qu'il devait être presque dans le même état que moi parce que, après s'être déshabillé et avoir grimpé dans sa couchette, il s'est mis à se tourner et se retourner dans tous les sens, lui non plus, n'arrivait pas à dormir. À 10h30 environ, il est descendu de sa couchette et a fait chauffer une bouilloire d'eau.
« Qu'est-ce qu'il y a, papa ?»«
Rien, » m'a-t-il dit. « Si on se faisait un petit souper ?»«
Ah oui, d'accord. »
Il a allumé la lampe accrochée au plafond, a ouvert une boîte de thon et nous a préparé à chacun un délicieux sandwich, avec du chocolat chaud pour moi et du thé pour lui. Nous avons alors recommencé à parler des faisans et des bois de Hazel. Il était assez tard quand nous sommes retournés nous coucher.